France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Soit 16 semaines de vacances par an à raison de 4 fois 2 semaines toutes les 7 semaines, sans compter les vacances d'été, si j'ajoute les 3 fois 2 heures par jour de cours pour les plus petits. Calculer le rythme idéal pour les élèves français dans les prochaines années, cette équation régulièrement remise en cause par de nouveaux paramètres revient dans le débat à la faveur d'une consultation citoyenne. Emmanuel Macron, qui affectionne l'exercice, l'a annoncé vendredi, de juin jusqu'à la fin de l'année, comme ce fut le cas pour le climat ou la fin de vie des Français tirés au sort, seront chargés de plancher sur l'organisation des journées et des vacances dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental. L'objectif, c'est, je cite, de rendre l'organisation des journées scolaires plus favorable au développement et aux apprentissages des élèves tout en facilitant la vie des familles. Fin de citation. On est un peu dans la quadrature du cercle. Alors comment faire? Commencer les journées plus tard, pour les adolescents par exemple, raccourcir les vacances d'été ou d'autres peut-être durant l'année. En résumé, comment mieux apprendre? Est-ce seulement une question de rythme ou d'enseignement? Parents d'élèves, professeurs, médecins, simples citoyens, on ouvre le débat tous ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Rama.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Je vous appelle en tant que père et conscient of tip.
Oui.
Donc je ne vous parlerai que du primaire. Et je tiens à dire que les enfants sont essorés, sont totalement essorés. Un enfant qui reste à la cantine passe entre 35 et 36 heures par semaine à l'école, mm-hmm. qui est plus qu'un adulte. Il y a ceux qui restent à l'étude, qui quittent parfois donc l'école à 18 heures. Et il y a le travail à la maison, ce qui accumule le travail. Et nous avons affaire à des enfants épuisés. Et les vacances, donc, sont absolument indispensables mmh. pour tout le monde. D'ailleurs, le travail à la maison, pour moi, en primaire, est totalement absurde. Mais passons au développement cognitif et émotionnel des enfants. Il faut des vacances. Il mmh. faut s'arrêter pour ça. Il y a ceux de plus... qui ne peuvent pas partir en vacances. Il y a ceux qui arrêtent en centre aéré. Donc, qui ne quittent jamais l'école.
Oui.
Il y a une injustice énorme envers cela. Et s'il y a un travail sur lequel il faut travailler, excusez-moi pour la redondance de cette phrase,
oui.
c'est vraiment équilibrer, trouver des solutions pour faire partir les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.
Ok, alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, Rama. Merci d'avoir posé le débat. Pour en parler avec vous, près de moi, Corinne Ekman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'OCDE et analyste à la direction de l'éducation et des compétences. Yannick Kiervel, bonsoir.
Bonsoir.
Référent national école SE-UNSA. Vous avez siégé à la commission calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale qui a rendu ses conclusions l'année dernière. On va y venir. Et nous sommes en duplex avec Grégoire Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président national de la FCPE, en direct des studios de nos amis d'ici Bourgogne, que l'on remercie au passage. Rama disait, les enfants sont essorés. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Yannick Kiervel?
Oui, ils le sont. Les enseignants également. Il y a une fatigue qui s'installe au fil de l'année, qui s'installe même très vite avant la première période, à la fin de la première période. Donc il y a une vraie problématique des conditions de travail, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves.
Là on parle des enfants qui ont entre 3 et 11 ans, hein,
oui.
qui sont à l'école primaire ou en maternelle. Ils travaillent 3 fois 2 heures, c'est ça? 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi?
Alors ça dépend, on peut schématiser comme ça effectivement, mais parfois c'est 3h30 le matin, 2h30 l'après-midi.
Et vous trouvez que c'est trop lourd?
Pour certains oui, les journées peuvent être trop longues, oui effectivement. Après, tout dépend de ce que l'on fait de ces temps de travail, de ces temps d'enseignement. Tous les temps d'enseignement ne sont pas les mêmes, ça dépend de ce que l'on fait avec ses élèves. On peut faire du travail de groupe, on peut faire de la lecture, on peut faire du sport. Donc il y a de l'EPS, donc il y a beaucoup d'activités différentes.
Mmh. Corinne Ekman, comment ça se passe dans les autres pays de l'OCDE? Alors, à l'école primaire, justement.
Ben, justement, là, on avait notre auditeur qui parlait des vacances, la nécessité des vacances, et je pense qu'il faut rappeler effectivement la spécificité française qui n'est pas spécialement sur les vacances d'été, hein, qui sont de 8 semaines.
Et c'est pas les plus longues.
C'est pas du tout les plus longues. On a des pays qui montent à 13 semaines de vacances l'été. C'est plutôt les vacances intermédiaires, hein, c'est 15 jours que l'on a fois 4 au cours de l'année, mm-hmm. qui font que, effectivement, dans le global, nous avons des vacances et des vacances qui sont nécessaires.
Nous sommes le seul pays de l'OCDE à faire 4 fois 2 ?
Non, il y a le Luxembourg aussi qui a des longues vacances intermédiaires, mais en général, sinon, c'est des vacances intermédiaires qui sont plus courtes. Mm-hmm. L'Allemagne, par exemple, a beaucoup moins de vacances intermédiaires que la France. Mmh. Et oui. À propos de justement des longueurs, c'est vrai que les journées sont longues. On est sur en primaire, on est sur 4 jours par semaine. Et là, c'est une spécificité un peu aussi française. Mmh. En général, dans les pays européens, c'est 4 jours et demi, voire 5 jours par semaine.
Mmh. Et pour vous, c'est un bon rythme ou c'est un mauvais rythme ?
Alors. Il faut surtout regarder qu'est-ce qu'on fait pendant ces horaires-là. C'est vrai que les enfants, on sait que ils sont plus attentifs le matin, donc il faut privilégier les séances d'apprentissage le matin. Donc avoir 5 matinées pour l'apprentissage peut permettre d'accumuler et avoir des séances l'après-midi qui sont peut-être plus souples où il y a plus, comme disait mon collègue, des cours de sport ou des activités manuelles. Et se concentrer sur tous les apprentissages qui demandent un peu plus d'attention le matin.
Mmh. Grégoire Ancel, puisque vous êtes vice-président national de la FCPE, est-ce que vous trouvez que les en tant que parent d'élèves, les journées sont trop lourdes pour les élèves aujourd'hui ?
Tout à fait, et c'est valable en primaire, au collège ou au lycée, car vous pouvez ajouter effectivement les temps de transport qu'il faut compter aussi dans cette journée très dense, le temps de devoir le soir. Mmh. Et puis, il y a beaucoup d'inégalités aussi en fonction des familles sur la capacité à être accompagné pour les devoirs. Et puis, des enfants qui font beaucoup de périscolaires aussi, le matin avant l'école ou après. Donc, c'est vrai que c'est des journées extrêmement denses et la fatigue se fait sentir très, très vite. Donc, l'alternance des vacances et des périodes travaillées à l'école est très importante. Et c'est sur les petites vacances qui nous a semblé important. Il y a eu un consensus, mais on en reparlera.
Oui, on va y revenir.
Autour d'une nouvelle répartition des vacances.
Mmh. On a un message de Julie sur WhatsApp qui nous dit « Je suis prof, réduire les vacances d'été, oui, à condition de réduire les journées des élèves qui ne peuvent pas se concentrer 8 heures d'affilée. » Est-ce que 8 heures d'affilée, c'est la norme aussi dans les autres pays de l'OCDE, Corinne Ekman ?
Non, c'est beaucoup. Hein. On a des nombres d'heures de cours qui sont quand même très élevés en France, hein, notamment au niveau du primaire par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc, c'est vrai que ça fait des journées très longues et très denses pour les enfants. Dans certains pays, ce n'est pas du tout le cas. Dans les pays nordiques, ils finissent beaucoup plus tôt, par exemple, ce qui permet de faire d'autres activités par la suite.
Mmh. On a Élise, je crois, qui est en ligne. Bonsoir, Élise. Élise qui est sur WhatsApp, non ? C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ah, voilà. Nous vous avons trouvé, nous vous écoutons. Élise, vous vouliez nous parler du système scolaire italien, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, moi, je vis en Italie depuis une vingtaine d'années. Mes 3 filles sont donc dans le système scolaire italien, une au collège et 2 dans le lycée. Et en fait, le système italien, c'est un petit peu ce que vous venez de dire, ce que disait votre invité. En fait, nous, l'école est de 8h à 14h. L'après-midi, effectivement, c'est les devoirs ou les activités sportives. Oui. L'école commence en septembre, autour du 10-15 septembre, et se termine début juin, on va dire. Par contre, dans l'année, il y a juste les 2 semaines de pause à Noël et 5 jours autour de Pâques. Mm-hmm. Donc, en fait, ça fait quand même des longues périodes sans pause, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, des journées qui sont un peu plus allégées par rapport à la France. Donc, effectivement, un juste milieu.
Et les élèves le supportent mieux ?
Alors, les élèves supportent mieux, disons que le rythme de la journée est certainement mieux supporté. Maintenant, effectivement, les élèves sont fatigués. Septembre jusqu'à Noël, c'est long.
C'est long.
De Noël jusqu'à 4-5 jours à Pâques, c'est long aussi. Mm-hmm. Donc, non, il y a quand même de la fatigue qui s'accumule, effectivement, après toute cette période. Ouais.
Mm-hmm. Mm. Septembre jusqu'à Noël, c'est absolument inimaginable ici, Yannick Hervel.
Oui. Ah oui, mais surtout comme je le disais tout à l'heure, déjà les vacances de la Toussaint sont attendues par les enseignants comme par les élèves.
Donc, Alors j'ai l'impression qu'on revit le débat de 2013 quand même, hein, le débat sur la semaine de 4 jours, on passe à 4 jours et demi. Vous vous souvenez, ça nous a occupés pendant des semaines et des semaines. Finalement, ils sont revenus ensuite avec Jean-Michel Blanquer sur cette réforme de Vincent Peillon. Et puis chaque commune fait comme elle veut. Et j'ai envie de dire presque comme elle peut, parce que ça dépend aussi du périscolaire. Mais vous, est-ce que vous avez le sentiment, Yannick Hirvel, que c'est mieux 4 jours et demi que 4 jours? Ou en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas dire si c'est mieux ou pas?
Bah, sur le papier, nous, on avait envie d'y croire aux 4 jours et demi. Donner, comme ça a été dit tout à l'heure par ma collègue, 5 matinées de classe aux élèves, surtout les plus en difficulté, qui à la maison n'ont pas les ressources, n'ont pas l'aide, n'ont pas... Voilà, ce qui peut permettre à d'autres élèves de bien s'en sortir, ça nous paraissait être une bonne chose. Après, si cette mise en place des 4 jours et demi ne va pas avec une réduction des effectifs de classe, une amélioration des conditions de travail des enseignants, les enseignants sont obligés de venir une journée de plus, ils rentrent dans un tunnel très très fatigant pour eux toute la semaine, et c'est vrai que de leur enlever cette pause du mercredi, ça a été assez compliqué à vivre pour certains, surtout quand, au bout du compte, les autres journées de classe étaient quasiment identiques à ce qu'ils avaient connu auparavant.
Mmh. Grégoire Ancel, de la FCTE.
Tout à fait. Non, on n'est pas favorable au fait de raccourcir les vacances d'été, parce que raccourcir les vacances d'été, c'est par exemple commencer plus tôt à la mi-août. Et on sait très bien qu'avec le dérèglement climatique, le bâti scolaire n'est pas adapté. Et donc, ça va poser des vrais problèmes de vie au quotidien. Et je rejoins ce qui vient d'être dit par Yannick. Effectivement, la question des rythmes scolaires, elle se juge aussi sur les conditions d'apprentissage. C'est pas parce que vous avez plus d'écoles que vous apprenez mieux. Vous apprenez mieux parce qu'il y a moins d'effectifs dans les classes, les enseignants sont remplacés, et on vient créer des conditions favorables au climat scolaire. Donc l'enjeu aussi de cette convention citoyenne pour nous, c'est certes peut-être de réfléchir aux questions de rythme scolaire, mais aussi d'ouvrir sur des sujets beaucoup plus importants, sur la mixité sociale et scolaire ou l'école inclusive par exemple. Il y a beaucoup de sujets à aborder.
Oui. Corinne Ekman, puisque vous êtes chercheuse à l'OCDE, est-ce qu'il y a un rapport entre les résultats et la durée des vacances?
Ah non, il n'y a pas de rapport.
Ce serait trop facile.
Ce serait trop facile. Et vous allez prendre deux pays. Hein. Si on prend par exemple l'Estonie et la Finlande, ils ont 11 et 10 semaines l'été. Donc ce n'est pas un problème de vacances d'été. Ils ont des résultats PISA. Hein. Je me base sur PISA parce que c'est l'enquête qui est la plus connue. Bien meilleure que la France. Vous avez les pays asiatiques. Hein. On ne veut pas ressembler à des pays asiatiques, mais ils ont de très bons résultats PISA aussi. Et ils ont des cours le soir. Donc il faut vraiment revenir à quels sont les besoins des enfants. Et on parle effectivement de faire attention à ceux qui ont le plus besoin. Donc on parlait d'inclusivité. Il faut aussi parler peut-être des programmes scolaires. Donc peut-être alléger aussi
en fait,
les
c'est
programmes
ça. C'est-à-dire que là, on parle de rythme scolaire, mais il faut parler de programmes, il faut parler d'apprentissage. En fait, c'est ça le fond du problème, Yannick Hirvel.
Oui, il faut parler d'apprentissage et de formation également. Hein. La formation même pour les enseignants, qui est en train d'être revue actuellement, parce qu'on a quand même eu sur le terrain des collègues qui sont arrivés quasiment sans formation pédagogique, sans être préparés à gérer une classe, ce qui s'apprend pas comme ça en claquant des doigts. Donc, pour revenir au programme, ils sont en train d'être réécrits. C'était pas une demande de notre part qu'ils soient réécrits. Allégé probablement, mais réécrit pour redonner du travail aux collègues pendant les vacances pour qu'ils revoient leur programmation.
Oui, bien sûr, et revoir leur pédagogie
voilà,
par rapport
ça aussi,
au nouveau programme.
Ça les épuise, parce que les révisions des programmes, il y en a quand même assez souvent.
Grégoire Ancel.
Sur la semaine des 4 jours et demi, c'est quelque chose qui correspond mieux au développement de l'enfant et qui lui permet effectivement d'être moins fatigué. Mais comme on l'a dit, ça veut dire qu'on réinterroge aussi ce que l'on fait en classe et le rythme de la journée et le rythme des apprentissages. Petite remarque, les études montrent que ces 4 jours et demi sont favorables aux enfants dont les familles ont moins de moyens. Parce que quand vous passez à 4 jours, vous avez une autre demi-journée à remplir. Et ça pose des tas de questions d'accès aux loisirs, ça pose des tas de questions sur la question de l'égalité. C'est un enjeu important. Et quand on regarde les études, les familles qui ont les moins de moyens sont les plus embêtées avec ces 4 jours parce qu'il faut remplir cette demi-journée qui reste vide, sans école.
Ben justement, il y a Benoît au standard qui a une question pour vous. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, Justement, j'étais en train de dire que le sujet était en train d'être abordé, mais ma question, je le précise bien, était purement du point de vue des enfants. Est-ce que le retour à l'école le samedi matin pourrait être bénéfique?
Je vous pose la question, Yannick Hirvel.
Alors, est-ce qu'il pourrait être bénéfique? Oui, enfin, le samedi matin, à l'époque où moi je l'ai connu hein, en tant qu'enseignant, était plutôt une matinée tranquille, parce que les élèves savaient qu'ils venaient pour une demi-journée. On travaillait tranquillement, et c'était plutôt bien vécu. C'était aussi un moment où les familles pouvaient venir après la classe, parce qu'elles ne travaillaient pas non plus le samedi, oui. Donc il y avait cette rencontre possible.
Oui. Il y avait un moment d'échange, c'est vrai.
Il y avait un moment d'échange, effectivement. Maintenant, dans les faits, d'après les sondages et les envies des enseignants et même des parents, il semblerait que ce soit un retour compliqué le samedi matin.
Grégoire Ancel ?
Ça doit être un projet de société. Ça fait débat, effectivement, parce que l'école, c'est le métronome de la société. C'est ce qui donne le la à la vie des entreprises, à des tas d'activités quotidiennes et au transport. Et donc, ça doit être un sujet qui se débatte, qui doit faire débat, qui doit faire échange. Et dans l'intérêt de l'enfant, comme ça a été rappelé, ça doit être la valeur cardinale de la réflexion. Pas les intérêts économiques, pas les enjeux du tourisme ou d'autres considérations qui sont pas celles de l'enfant. Donc, c'est vraiment l'enjeu clé.
L'école le samedi matin, ça existe dans beaucoup de pays de l'OCDE, Corinne Ekman.
Oui, ça existe. Et puis
c'est la règle sous
non, c'est,
le plus
c'est pas la règle, mais ça existe. Ouais, les six matinées dans pas mal de pays. Et ce qui est important, et je pense que ce qui était rappelé, c'est que c'est un moyen pour la famille de rentrer dans l'école et d'avoir ce type d'interaction. Et on sait l'importance de la famille dans l'éducation de l'enfant. Et là où on voit des systèmes éducatifs qui fonctionnent bien, les parents font vraiment partie du système éducatif, sont vraiment des composants
essentiels, hein.
Essentiels pour cela. Donc c'est vrai que ça oblige les parents à retourner, à passer du temps. Donc oui, mais ça sera effectivement difficile de revenir en arrière sur parce que ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on a 15 ans qu'on a quitté ça.
Ouais, ça fait un petit moment maintenant.
Ah bon, ouais.
Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. Bonsoir à vous Fabienne et bonsoir aux invités. Moi, je vous faire part de mon expérience. J'ai été 18 ans professeur des écoles, donc dans le primaire, pour un public d'enfants de 3 à 11 ans. Et moi, depuis que j'ai commencé dans le métier, j'ai toujours fait le constat qu'il y avait trop de vacances scolaires et que les rythmes n'étaient pas adaptés. J'ai misé beaucoup sur la réforme des rythmes en 2013 en me disant que les journées allaient être réduites, que les après-midi en particulier allaient être réduites ou allaient être occupées un petit peu autrement par des activités artistiques ou des activités sportives. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu délicat, puis qu'en réalité c'est vite devenu l'apanage des communes, et puis les communes ont fait un petit peu comme elles pouvaient, et puis on est vite revenu en arrière. Et donc, on est toujours sur des rythmes à peu près classiques de journée 3h matin, 3h après-midi, oui. Avec des enfants qui n'en peuvent plus l'après-midi. Et donc, c'est dommageable, je trouve, qu'on ne puisse pas un petit peu réduire ces après-midi, et éventuellement aussi, pour le rythme des enfants, homogénéiser les semaines d'école. Parce qu'on est quand même sur des semaines, par exemple, à la semaine, la période 3, janvier-février, dans la zone A, on était sur une période de 5 semaines, alors qu'on peut avoir une période de 5 mai-juin pour une autre zone qui va être une période de 11 ou 12 semaines. Donc c'est des périodes qui sont assez inégales et je trouve que c'est dommage également.
Ah bien, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que on est au cœur du sujet et il faut vraiment qu'on y vienne. Homogénéiser les semaines d'école, disait Thierry. Yannick Hirvel, vous avez travaillé sur le calendrier scolaire avec la commission chargée de ce dossier qui a rendu des préconisations l'été dernier, des préconisations qui n'ont pas été entendues.
Qui n'ont pas été entendues, on espère qu'elles ont été lues, mais elles ont été lues par Nicole Belloubet qui était la ministre de l'époque. Mais depuis, que ce soit Madame Genté ou Madame Borne, on n'a pas eu trop de nouvelles à ce sujet-là.
Bon, en tout cas, parmi ces conclusions, il y en avait une qui disait qu'il y avait un consensus sur le passage de 3 à 2 zones de congés scolaires. Je me demande si ça ne répond pas un peu à la question de notre auditeur, justement.
Un des objets de la commission, c'était effectivement de réduire cette dernière période. Et le passage de 3 à 2 zones, finalement, permettait D'avoir des zones de travail qui étaient entre 7 et 8 semaines.
C'est ça. Alors ouais. que là, il disait 5 semaines, parfois, c'est beaucoup trop court entre deux vacances. Finalement, on n'arrive pas à prendre un rythme et on est déjà reparti en vacances. Grégoire Ancel, je crois que vous vouliez intervenir.
Tout à fait. On voit bien qu'on peut arriver à des consensus parce que cette commission, qui était présidée par la FCPE, a auditionné tous les acteurs du tourisme, les collectivités locales, l'entrepreneuriat. Il y a eu beaucoup d'auditions. C'était un travail absolument remarquable.
Et on arrive auquel vous avez participé, vous, à la FCPE aussi.
Oui, on a eu le plaisir de présider cette commission. Et donc, on voit bien qu'on arrive à discuter sereinement des choses. Et il faut que ce travail-là soit capitalisé. Aujourd'hui, le consensus existe sur le rythme des petites vacances. Donc, il est sur la table, il est prêt à l'emploi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je voulais revenir sur une notion. C'est que il faut tout un village pour élever un enfant. Et on ne construira pas les rythmes scolaires ou l'école publique sans associer les collectivités et toutes celles et ceux qui sont attachés à l'école publique. Aujourd'hui, il y a une soif, une envie de débat autour de l'école. Et cette convention citoyenne doit élargir ces sujets et permettre aux territoires, aux écoles, aux communes, aux quartiers, aux associations d'éducation populaire, aux MJC, aux centres de loisirs, aux centres sociaux, de proposer des choses pour l'école. Il y a aujourd'hui une envie de construire une autre école.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette convention citoyenne, Yannick Kiervel ?
On a été surpris que, déjà, la commission calendrier scolaire, en tout cas ses travaux, n'aient pas été pris en compte dans un premier temps. Ça aurait pu être une base de travail intéressante.
C'est assez étrange, en fait, parce que vous avez planché pendant un sacré moment.
Oui, pendant un peu plus d'un an.
Et finalement, rien. C'est-à-dire, on ne sait même pas si c'est bien ou si c'est pas bien, quoi.
Si, c'est bien.
C'est bien sur le papier, mais on n'est pas prêt.
Mais en tout cas, c'est...
Mais pourquoi ce serait si difficile, par exemple, de passer de 3 à 2 zones ?
Alors,
c'est à cause du tourisme, c'est...
Alors, effectivement, le milieu du tourisme grince un peu des dents, surtout le milieu des sports de montagne.
Oui.
Puisque c'est eux qui seraient le plus impactés,
oui.
Même si...
Parce que ça raccourcirait la saison qui n'est déjà pas très longue, oui.
Tout à fait, même si la neige, l'enneigement actuellement n'est pas le même que celui des années 80. Donc il y a une modification, on sait qu'il y a des stations de basse montagne, voire de moyenne montagne, qui déjà au mois d'avril, de toute façon, ne sont plus des stations de ski. Donc une modification des vacances dans l'absolu... ne leur ferait pas trop de manque à gagner.
Et vous étiez, il y avait un consensus aussi dans cette commission sur le maintien de 8 semaines de vacances en juillet et août.
Oui, là pour le coup, tout le monde était d'accord.
Sauf Emmanuel Macron, semble-t-il.
Il ne faisait pas partie de la commission.
Hein, c'est ça, Emmanuel Macron, lui, voudrait... En fait, il avait dit l'année dernière qu'il aimerait bien que la rentrée soit décalée au 20 août pour les élèves les plus en difficulté.
Ce qui donnerait une image assez particulière, parce que faire revenir en classe seulement les élèves qui sont en difficulté, c'est quand même très très particulier comme idée.
Oui.
Alors comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, par contre, favoriser le départ en colonie de vacances des élèves les plus défavorisés, ça serait plutôt une bonne chose, puisque ceux-là restent dans leur quartier pendant parfois effectivement 2 mois, ne sont pas sollicités, ou pas plus que ça, ou pas assez, et il y a des pertes d'apprentissage qui s'opèrent pour eux durant les vacances, donc c'est bien dommage.
Grégoire Ancel, vous souhaitiez intervenir de la FCPE ?
Tout à fait. Si vous raccourcissez les vacances d'été, vous avez, par exemple, dans une fratrie, un élève en difficulté et un élève qui réussit bien. On va expliquer à l'élève qui est en difficulté que, à cause de lui, on va rentrer plutôt de vacances, hein, parce qu'il est nul à l'école, et que, contrairement au grand frère ou à la grande sœur qui s'en sort très bien, eh bien, toi, tu vas aller à l'école plus tôt parce que, tu bosses pas assez ou tu n'es pas assez bon à l'école. Et en fait, le sujet, c'est pas de dire qu'il faut plus d'école, il faut mieux d'école. Et c'est tout notre engagement aujourd'hui. On veut pas moins d'école, on veut plus d'école, on veut mieux d'école surtout. C'est-à-dire de la qualité des enseignants présents, formés, dans un climat scolaire apaisé, moins d'effectifs dans les classes, des moyens pour l'éducation prioritaire pour l'école inclusive. Donc vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est de repenser l'école, mais collectivement, et de faire société autour de l'école, et de la porter, et d'avoir de l'ambition pour elle, et de rêver grand pour elle.
Et vous trouvez que c'est stigmatisant finalement pour les élèves en difficulté, cette histoire de rentrée un peu décalée ?
Tout à fait, ça va être stigmatisant, ça va poser des problèmes dans les fratries, ça va désynchroniser des tas de choses, ça va blesser l'estime de soi. Il faut aider les élèves en difficulté. C'est une évidence, c'est une demande, c'est une exigence de la République. Mais pour autant, aujourd'hui, il faut en avoir les moyens. Et c'est pas quand vous êtes 30 dans une classe de collège ou 35, 36, 37 au lycée que vous pouvez repérer des élèves en difficulté, apporter des éléments de remédiation, permettre de combler les lacunes. Et avant avant de pouvoir raccourcir les vacances d'été, nous, on aimerait bien que le troisième trimestre, qui s'arrête souvent début juin, voire mi-juin pour beaucoup d'élèves, eh bien, soit déjà rempli. Et la promesse, ça serait déjà d'arriver à remplir pleinement le troisième trimestre.
Ce qui n'est toujours pas le cas, en fait. Hein. Pourtant, plusieurs ministres successifs de l'Éducation nationale ont essayé et on n'y arrive toujours pas. Donc, on voit que c'est quand même infiniment complexe, cette histoire, Grégoire Ancel.
Ah, il y a une solution qui a été trouvée, qui a été de créer un stage obligatoire en seconde.
Oui.
En fait, on a déporté sur les entreprises la possibilité de quitter le lycée pour pouvoir faire la place aux élèves de première et terminale. Résultat, on a beaucoup d'élèves qui se retrouvent sur le carreau, malgré des chiffres qui nous semblent être... On en a beaucoup parlé avec les syndicats enseignants surévalués, enfin pas tout à fait juste. Il y a eu des stages kebab, il y a eu des stages dans le Super U du coin pour mettre des canettes en rayon, ou des stages Netflix qui se sont finalement terminés sur le canapé. Et donc en fait, le vrai enjeu, c'est d'être dans l'école, d'avoir des enseignants disponibles, d'avoir un climat de vie scolaire apaisé et de pouvoir faire société ensemble. Il ne faut pas oublier que l'école, c'est là où on se construit en tant que citoyen. Et donc il faut absolument donner ces conditions-là aujourd'hui. Et c'est ce dont les citoyens ont envie de parler. Et dans les territoires, quand aujourd'hui on lance une pétition pour soutenir l'école publique, c'est des dizaines de milliers de signatures qui nous arrivent en quelques jours. C'est des parents dans la rue contre le choc des savoirs. Donc on a aujourd'hui une envie de parler de l'école et de construire autre chose.
Est-ce que ce type de débat sur les rythmes scolaires, vif comme on l'a dans notre pays, ça existe ailleurs, Corinne Ekman, en Europe ? Est-ce qu'il y a une spécificité française ?
Alors, il y a une spécificité française de râler sur ce qui se passe.
Oui.
Mais surtout, ce que je voulais mentionner, c'est que c'est pas vraiment un sujet. C'est-à-dire que les pays essayent de travailler sur d'autres mesures pour améliorer les résultats scolaires. Ils ne sont pas en train d'essayer de faire des va-et-vient sur les rythmes scolaires en se disant que ça va être la solution pour améliorer les résultats scolaires. Et c'est ça un petit peu qu'on reproche à cette initiative, c'est de dire, on est encore sur le même sujet, hein, on a parlé de 2013, on peut même remonter à 2011, hein, la première conférence qui a été sur ce sujet où on avait mis tous les gens autour de la table, c'était en 2011, hein, c'était Luc Ferry qui avait mis ça en place, et on se retrouve toujours avec des solutions qui, bon, on va avoir des élections prochainement, donc potentiellement on va travailler sur un sujet qui ne va pas aboutir, alors que il faut vraiment travailler, comme ce qui a été dit, sur l'apprentissage pour les élèves en difficulté, sur un temps vraiment privilégié plutôt le matin, et puis il y a un sujet
plutôt le matin, ou par exemple, pardon, parce qu'il y a quelque chose que je trouvais intéressant, c'était par rapport aux ados. On sait que les ados, ils se couchent plus tard parce que voilà, leur rythme hormonal est un petit peu différent, et on pourrait envisager de commencer plus tard le matin pour les adolescents.
Mais je crois qu'il y a des établissements qui le font, hein. Il y a des établissements, des collèges qui décident de mettre, pour la sixième, ils vont peut-être commencer à 8h ou 8h30, mais pour en quatrième et troisième, donc ça c'est des initiatives qui sont faites au niveau des établissements de changer les heures.
C'est une bonne idée.
Oui, ça c'est une bonne idée, mais dans les pays, si on prend l'Allemagne, il commence très tôt.
Oui.
Donc les enfants sont les mêmes.
Oui.
Et je pense qu'il y a un sujet dont on n'aborde pas, c'est le côté budgétaire. Donc c'est très bien, on parle de proposer des activités extrascolaires aux enfants, mais avec quel budget les municipalités vont les mettre en place ? On parle de raccourcir les vacances scolaires, mais avec quel budget ? Alors est-ce qu'il ne faut pas mettre ce budget sur d'autres initiatives ? On en a parlé de la formation des enseignants.
En fait, cette histoire de rythme scolaire, c'est l'arbre qui cache la forêt, on ouvre la boîte de Pandore. C'est juste la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de dire, Yannick Kervel.
Oui, comme ça a été rappelé aussi, il y a les problématiques de mixité. On parle de faire société, l'école c'est le moment de faire société. Mmh. Le SNU qui a été proposé à un moment, qui proposait de faire société pendant deux semaines. Voilà,
ouais.
Pendant deux semaines en seconde, c'est un peu une blague. Puisqu'on sait très bien qu'il y a plein d'endroits où il y a des regroupements d'élèves qui sont soit très défavorisés, soit très favorisés, et qu'au bout du compte, ces élèves-là ne se rencontrent jamais. Comment est-ce qu'on veut faire société en stigmatisant les enfants de cette façon-là, au bout du compte ?
Alors, on a une question de Margot sur l'application France Inter. Elle dit « J'ai 12 ans et je suis en 5e. Je veux bien qu'on nous réduise nos vacances de Pâques et de la Toussaint. Par contre, il ne faut pas toucher aux vacances d'été. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Grégoire Ancel ?
Oui, il faut pas toucher aux vacances d'été, effectivement, parce que il y a des tas de choses qui s'organisent l'été pour nombre de familles, les familles, par exemple, qui sont séparées, il y a des alternances, il y a des rythmes qui sont pris. Je le rappelais, finir les vacances plus tôt, c'est s'exposer aussi au plein mois d'août, à la question de la chaleur, là où le bâti scolaire n'est absolument pas adapté. On le voit déjà maintenant au mois de juin, ça commence des fois à être très dur. Je vous rappelle qu'il y a quand même quelques temps, on a déplacé les horaires du brevet, enfin, les épreuves du brevet, parce que les conditions climatiques ne permettaient pas aux élèves de plancher correctement.
On était en pleine canicule, c'est vrai.
Tout à fait. Donc, il faut vraiment mesurer beaucoup ces effets-là et surtout s'attacher aux problèmes de fond de l'école. Et il y a vraiment moyen de construire quelque chose et de faire des consensus aujourd'hui autour de l'école. C'est une des conditions d'apaisement du débat démocratique en France.
Donc, quel genre de thème doit aborder cette convention citoyenne, selon vous, Grégoire Ancel ?
Alors, je l'évoquais.
Vous l'avez réclamé, à la FCPE, ah, oui. Mais de manière plus large, pour aller beaucoup plus loin que sur les rythmes scolaires.
Tout à fait. Dès le mois de septembre, on l'a demandé, et aujourd'hui, on considère que c'est un premier pas qui est franchi, et on est satisfait qu'une convention citoyenne se penche sur l'école. Ça veut dire que pendant 6 mois, on va sortir du bruit médiatique, des solutions simplistes, Yaka, Faucon, et peut-être qu'on pourrait imaginer si, ou un peu plus d'autorité, ça irait mieux. C'est beaucoup plus profond que cela, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc la mixité sociale et scolaire, l'école inclusive, les questions des moyens de l'éducation prioritaire. La place de l'intelligence artificielle à l'école, aujourd'hui, c'est déjà là. Et demain, on fait quoi? On apprend comment avec toutes ces questions-là? Vous voyez, il y a des tas de sujets sur lesquels on peut construire des consensus, donner un cap clair à l'école et surtout dire les moyens qu'on veut lui donner pour réussir. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est de dire, on arrête les coupes budgétaires, on arrête les 4 000, 5 000 profs, enseignants, excusez-moi, qui sont supprimés chaque année, les manifestations devant les écoles, collèges et lycées pour essayer de garder ici un poste, là, avoir des remplaçants. On voudrait apaiser l'école et prendre le temps du débat. Donc cette convention citoyenne, c'est une opportunité collective à saisir pour se parler, pour faire des consensus, pour comprendre les enjeux et mettre l'enfant au cœur de la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on va vers des coupes budgétaires. Il faut qu'on puisse dire collectivement ce qu'on attend de l'école, mais surtout qu'on lui donne les moyens de pouvoir réussir ses missions qui sont essentielles parce qu'elles construisent l'identité du pays. Et c'est pour ça que les gens sont prêts à en discuter, à se mobiliser dans les communes, dans les quartiers. C'est parce qu'ils ont un attachement viscéral à cette école publique et ils l'aiment. Ils ont envie d'y contribuer et d'apporter leur éclairage. Donc le CESE pourrait, via les Césaires peut-être, et d'autres instances et les associations d'éducation populaire, donner un cadre à ce débat pour qu'il alimente la convention citoyenne et que toutes ces expressions, toutes ces expertises du terrain puissent être multiples et venir alimenter utilement la réflexion des citoyens qui seront tirés au sort.
Mmh. On repart au standard une dernière fois. Bonsoir Joanne.
Bonsoir, merci de prendre mon appel.
Nous vous écoutons.
Alors, je voulais rebondir sur le fait que c'est un projet de société. Je suis parent et effectivement, j'aimerais que mon enfant soit moins fatigué en rentrant de l'école. Mais il faut que ça soit aussi compatible avec ma possibilité à moi, en tant que parent, d'aller l'emmener, d'aller le récupérer et de lui proposer des activités en fait qui soient à des heures correctes. Parce que souvent, les activités extrascolaires sont aussi à des horaires qui sont épuisantes pour les enfants. Mmh. Alors, ça peut être une bonne initiative de coupler en fait tout ça, ce besoin de raccourcir le temps d'apprentissage et d'intégrer d'autres types d'activités aux enfants. Par exemple, rejoindre les écoles et les USI, quelque chose de ce type. Mmh. C'est ma réflexion.
Mmh. Intégrer d'autres types d'activités, Yannick Hirvel.
C'est ce qui avait été un peu voulu avec les PEDT, projets éducatifs de territoire. Où on a essayé de faire discuter entre les collectivités locales et l'éducation nationale. Il y a des endroits où ça a bien fonctionné, d'autres endroits où c'était plus compliqué parce qu'on n'avait pas d'animateurs. Ah oui. Là où l'éducation populaire fonctionne bien, ça marche très bien.
Mmh. Grégoire Ancel, est-ce que vous trouvez que les parents ne sont pas assez pris en compte en fait, dans toute cette histoire ?
Ils doivent être écoutés, concertés. On a la chance d'avoir des fédérations de parents d'élèves qui sont présentes. On a des parents qui s'impliquent. Ce sont des bénévoles de la République dans beaucoup d'écoles, collèges et lycées. Donc on a tout le terreau pour pouvoir consulter, dialoguer, proposer des solutions. Et il faut effectivement que je le disais, la société en fasse un projet central parce que ça interroge le rythme des entreprises, ça interroge le rythme des transports, ça interroge la question des vacances et des tas de sujets. Donc à partir de là, si on se met autour de la table et qu'on discute posément, on l'a vu avec la commission calendrier scolaire, on arrive à trouver des solutions pertinentes qui sont de bon sens et qui vont dans l'intérêt de l'enfant.
Est-ce que ce genre de grand débat citoyen existe ailleurs, Corinne Ekman, dans d'autres pays européens ?
Alors effectivement, il y a des pays qui ont décidé de mettre tous les acteurs autour de la table pour prendre des décisions de ce type. Notamment l'Allemagne, il y a une vingtaine d'années, avait fait ça, justement pour s'assurer d'inclure tout le monde et ne pas prendre seulement des avis de certains. Donc je pense que là, c'est vraiment la réflexion, c'est si on arrive à mettre tout le monde autour de la table, que ça soit les enseignants, que ça soit les parents d'élèves, les collectivités locales qui ont aussi leur rôle à jouer, et s'assurer qu'il y a un budget derrière qui puisse justement remettre l'enfant au milieu, au centre, et s'assurer de garder du temps pour ces enfants en difficulté et pour améliorer les temps d'apprentissage.
Pour conclure, c'est une chance pour vous, Yannick Kervel, ou pas ?
Si on ne voit plus l'école comme une dépense, mais comme un investissement pour la société, oui.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat au téléphone sonne ce soir.